Donc on va prier, puis ensuite on va ouvrir la parole de Dieu. Donc prions. Seigneur, merci de tout cœur pour la parole, la Bible, Seigneur, le best-seller de tous les temps. Car Seigneur, le livre vient de toi, soufflé, inspiré de toi, Seigneur, et nous aimons étudier ta parole. Et nous voulons encore te remettre ce matin le sujet que nous allons aborder. Seigneur, fais-nous du bien, guide-nous, aide-nous à comprendre ton intention. Et j'en te remercie d'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, nous continuons à parcourir l'épître de 1 Timothée. Et aujourd'hui, nous allons aborder les versets 9 à 15, du moins on va commencer à les aborder. Et le titre de ce message ou de cette mini-série que je vais donner s'appelle « Le rôle de la femme dans l'Église ». Le rôle de la femme dans l'Église. Et j'aimerais lire les versets 9 à 15 de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2, 9 à 15. Paul écrit, il dit ceci. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Alors là, on arrive à des versets hyper intéressants. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Alors bien sûr, quelle est la question que nous abordons, enfin que l'apôtre Paul aborde ici dans ce texte? Et ça, bien sûr, c'est un des grands avantages, on en a parlé jeudi soir, de la prédication textuelle suivie. En suivant le texte, ben, on arrive à des versets, sinon que peut-être on voudrait éviter. Ben, on ne peut pas les éviter, ils font partie de la parole de Dieu. Alors la question est simple. Quel rôle une femme peut-elle avoir dans une église? Plus spécifiquement, une femme a-t-elle le droit d'enseigner dans une église? A-t-elle le droit d'enseigner des hommes dans une église? Et a-t-elle le droit d'avoir une position d'autorité dans une église et surtout une position d'autorité sur des hommes? Voilà là où les questions. Alors elle peut pour certains sembler banale comme question, et pourtant elle est d'actualité car cette question, et surtout la réponse à cette question, divise les églises dans le monde aujourd'hui. L'église anglicane d'Angleterre, par exemple, encourage le ministère féminin, tandis que les églises évangéliques type conservatrices rejettent cette notion du ministère féminin. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il? Eh bien, avant de rentrer dans l'analyse détaillée de ce texte, parce qu'en fait, ce texte est un des textes clés pour ou bien soutenir un ministère, ou bien pour certains rejeter le ministère féminin. C'est un des versets, un des passages clés. Eh bien, avant de rentrer dans l'analyse détaillée de ce texte, j'aimerais situer le tout dans son contexte. Et ça, c'est une autre règle qu'on a appris jeudi dernier. L'importance de comprendre le contexte d'un texte pour le comprendre. Et c'est vrai que le sujet est trop important pour ne pas comprendre le contexte. En l'occurrence, le contexte est multiple. Il y a le contexte culturel de l'époque, mais aussi le contexte de tout ce que la Bible entière dit sur le sujet de la femme et de son rôle, parce que 1 Timothée 2 n'est qu'un passage parmi un livre qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible. Donc aujourd'hui et dimanche prochain, et même peut-être encore le dimanche d'après, je ne sais pas, j'aimerais consacrer mon étude sur le tout, mais surtout aujourd'hui, consacrer mon étude sur le contexte. D'accord? Donc pour le faire, il va falloir reculer maintenant, d'à plusieurs millénaires, et essayer de comprendre quel était en premier le statut des femmes dans le passé. Et j'aimerais qu'on regarde l'évolution du statut de la femme au travers des siècles. Donc en premier, voyons le statut des femmes dans l'histoire. Alors reculons et je vais vous faire une petite leçon historique très intéressante, j'espère du moins pour vous. Le statut, premièrement, des femmes dans la Grèce ancienne. Dans la Grèce antique, donc 600 ans avant Jésus-Christ et plus loin encore, la femme était placée presque au même niveau de l'esclave. Leur mari avait plein pouvoir sur elle légalement, mais même si Platon affirmait l'égalité des sexes, cette idée était exceptionnelle. Aristote, lui, affirmait que la femme était inférieure aux hommes, et cela de manière inhérente, elle était née inférieure. Le seul rôle réel des femmes était celui de la procréation, c'est-à-dire de mettre des enfants au monde. À Sparte, les femmes étaient cultivées physiquement afin de créer des garçons forts. Et une fois qu'elles avaient passé l'âge de la maternité, elles ne valaient plus rien. Elles étaient globalement mises de côté et ne partageaient pas le côté social ni intellectuel de leur mari. Son rôle était un rôle domestique. Démosthène décrit le statut de la femme comme ceci. Alors, les hétérailles, alors j'ai pas trouvé ce que voulait dire hétérailles, je suppose que ça veut dire prostituée, mais je n'en sais rien. Les hétérailles, nous avons pour le plaisir, dit-il. Les concubines, nous les avons pour les besoins ordinaires du corps. Et nos femmes, nous les avons pour qu'elles nous donnent des enfants légitimes et qu'elles soient les fidèles gardiennes de nos maisons. C'est seulement après Alexandre le Grand que les femmes ont commencé à avoir une plus grande liberté, surtout en Macédoine, dont est issue Cléopâtre, par exemple, mais cela reste une vraie minorité. En bref, la Grèce, ou le statut de la femme en Grèce, était celle d'une femme très inférieure à l'homme. Alors, qu'en est-il maintenant du statut des femmes dans la Rome ancienne, à Rome ? Le statut des femmes s'est amélioré dans la Rome antique, donc la Rome a suivi la Grèce, d'accord ? Légalement, toutefois, la femme était considérée un bien et sous la propriété de son mari. Mais en réalité, la femme jouit d'une plus grande liberté à Rome qu'en Grèce. La femme n'était plus cloisonnée comme en Grèce, mais pouvait davantage partager la vie de son mari. Mais ceci a pris du temps. Les femmes cherchaient à être émancipées de l'emprise de leur mari despote. Et ça, c'est intéressant. Deux fois, dans l'histoire de Rome, y a-t-il eu, écoutez bien, des empoisonnements en masse de maris par leurs femmes. En 333 avant Jésus-Christ et en 180 avant Jésus-Christ, tellement elles ont eu marre d'être ainsi traitées par leurs maris. Et ce désir d'émancipation a mené également à une croissance du laxisme moral. Le divorce est devenu une chose commune. Il est dit que dans les derniers siècles avant Christ, que presque chaque vice était présent à Rome. L'immoralité, la pédophilie, l'avortement, l'infanticide, l'avarice, la cruauté, le jeu, le suicide, l'indécence dans les images, aux courses publiques et même sur scène. Tiens, il y a un petit rappel peut-être avec la modernité d'aujourd'hui. Bref, le lot... C'est vrai, des femmes s'est améliorée par rapport à la Grèce, mais cela s'est fait que par force. Et cette amélioration de la liberté chez la femme, et ça c'est intéressant, a en fait aidé la propagation de l'évangile, car les femmes pouvaient maintenant participer à des célébrations religieuses. Donc il y a une amélioration, mais pas facile, disons. Passons maintenant au statut des femmes dans le judaïsme. Et ça, c'est un mystère. Oui, le statut des femmes dans le judaïsme reste un mystère et un paradoxe. Car d'un côté, il y avait un dicton célèbre, connu, qui se disait lors des cérémonies dans les synagogues, et je le cite. « Béni sois-tu », c'est les hommes qui disaient ça, publiquement. « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas créé femme. » Alors au moins, leur perspective était vraiment claire. D'un autre côté, et c'est ça qui est étonnant, le livre des Proverbes honorait la femme vertueuse. Dans Proverbes 31, par exemple, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles, » nous dit le verset 10. Et le verset 26, « Elle ouvre sa bouche avec sagesse. et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée-là du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alors il y a un contraste, il y a une contradiction de ce que la Bible enseignait et de ce que se disait, la perception des hommes juifs vis-à-vis des femmes. Mais il faut dire que globalement, le judaïsme, donc comme je viens de le dire, reprenait une conception plutôt inférieure de la femme par rapport aux hommes. Les rabbins considéraient que les femmes devaient recevoir la moitié de l'instruction des garçons, les filles donc. Certains domaines d'instruction étaient interdits aux femmes, comme par exemple le droit. Car les rabbins pensaient que l'esprit de la femme était inférieur à celui des hommes et qu'elles étaient incapables de comprendre de telles investigations légales. Mais elle recevait quand même de l'instruction. Alors il faut dire que l'Ancien Testament, souligne-le bien, l'Ancien Testament, la Bible, a grandement haussé le lot des femmes dans le monde. Et de loin. Et c'est vrai que dans le judaïsme, même avec ce côté négatif encore, le lot de la femme a été bien plus élevé dans le judaïsme qu'il l'avait été à Rome et en Grèce. Alors nous passons maintenant au statut des femmes dans le christianisme. Alors ça, nous le verrons dans quelques instants, et c'est tout le but, bien sûr, de notre étude, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps maintenant. Mais simplement, sachez que le christianisme, et là ça devient radical, a totalement haussé le lot de la femme dans la société. Et ça, on le verra dans quelques minutes, donc nous y reviendrons. Alors passons maintenant au statut des femmes de nos jours. Alors, il faut dire que de nos jours, le mouvement féministe du XXe siècle a attaqué de plein fouet le rôle traditionnel chrétien de la femme. Dans le passé pas si lointain, les femmes avaient des rôles de support pour la plupart et recevaient leur joie et leur dignité dans le rôle en tant qu'épouse et mère. Leur foyer était le centre de leur activité, donnant un refuge pour toute la famille, un refuge de bien-être, un refuge qui était sain et équilibré. Mais les choses ont changé. Les femmes, du moins celles qui font partie du mouvement féministe, ont décidé qu'une telle vie était dévalorisante. Elles ont exigé vouloir travailler à l'extérieur du foyer et aussi, elles aussi, avoir de bons jobs pour gagner des bons salaires, pour avoir une sorte de dignité personnelle liée au travail, comme leur mari. Et donc, les enfants, finalement, ont dû trouver d'autres solutions que le foyer parental. On a commencé à les mettre de plus en plus dans les crèches pendant que maman et papa travaillaient. Les valeurs traditionnelles sexuelles ont également subi une révolution. La promiscuité est devenue la norme. Les mariages où le taux de mariage a baissé, le concubinage a augmenté, le divorce a explosé et les familles ont éclaté et les enfants se sont retrouvés victimes et complètement paumés. Les femmes sont devenues de plus en plus agressives, revendiquant leurs droits, même leur droit ultime à avorter leur bébé, car ceci résulta souvent d'une promiscuité sans limite, dérangeaient leur projet. Alors aujourd'hui, on a un nouveau problème qui se dresse, celui d'un mouvement féministe dans l'Église. Elles s'appellent souvent des féministes bibliques. Ces personnes sont convaincues que les textes bibliques qui préconisent une différence entre le rôle de l'homme et la femme sont erronés, que là, il y a un problème biblique, ils ne sont pas justes, et que l'interprétation traditionnelle de ces versets doit être revue. Et justement, comme j'ai déjà dit, le texte que nous venons de lire est un des textes qu'elle pense ou qu'il pense doit être réinterprété parce qu'une lecture simple et claire, qui est facile à comprendre, doit ne pas être juste. Donc, il trouve un moyen de réinterpréter cela. Alors, j'ai commandé plein de livres pour cette série et j'ai des livres des deux côtés du camp et c'est vraiment intéressant de voir un petit peu la gymnastique qui doit se faire pour en arriver là. Mais ça, on en parlera aussi dans les semaines à venir. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps dans l'examen de ces textes. Alors, par où commencer ? Eh bien, j'aimerais faire un grand saut en arrière. En fait, je vais vous dire, on va commencer avec la Bible. D'accord? Ça, c'est la seule chose vraiment qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment, premièrement, voir le statut des femmes dans la Bible. Il me semble capital d'examiner en premier la Bible et de voir comment elle perçoit la femme et son rôle. Alors, sachez, nous croyons, je crois, très formellement, que la Bible est totalement inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je crois, et nous croyons, que la Bible est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu, et je la prends telle qu'elle. Je pense qu'elle est sans aucune erreur. Et ça, c'est très important de le dire d'emblée. Alors, puisque la Bible a un commencement et une fin, je propose qu'on commence au commencement. D'accord ? Donc, prenez vos Bibles, et on va aller voir en premier la dignité de la femme avant la chute. Donc, prenez vos Bibles, on va aller à Genèse 1, on va aller tout au début, et réviser rapidement, assez rapidement, la dignité de la femme qui était honorée avant la chute. Avant la chute, d'accord ? Alors, allons au premier texte où la femme est mentionnée dans la Bible. C'est Genèse 1 et le verset 26, à partir du verset 26. Alors, Genèse 1, c'est facile à trouver, hein. C'est le premier chapitre de la Bible. Il est dit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » D'accord ? Donc, lors du 6e jour de la création, Dieu créa l'humanité en 2 sexes à son image. Rien dans le texte suggère une quelconque différence entre eux. Ce que nous apprenons, c'est qu'ils furent créés par Dieu en 2 sexes, écoutez bien, qui sont totalement égaux, créés les deux dans l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'ils ont été créés à la ressemblance de Dieu, qui veut dire qu'ils ont été créés dotés de caractéristiques qui sont propres à Dieu. Par exemple, ils ont les deux la personnalité, ils ont l'intelligence, ils ont l'émotion, ils ont la volonté. Les deux peuvent réfléchir, les deux peuvent sentir émotionnellement, les deux peuvent choisir. Regardez verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est intéressant. Dieu les bénit. Qui ? Les deux. Il les bénit. Et ensuite, Dieu leur demande d'être féconds et multiplier et assujettir la terre et dominer sur les animaux. Les deux doivent régner ensemble sur la terre. Il leur donne la responsabilité d'être co-gérants de la terre. Cette co-gérance implique quelque chose de pratique en ce qui concerne le rôle de la femme de nos jours au niveau du travail séculier. Si une femme travaille, bien son travail peut être le même que celui d'un homme. Elles sont aussi compétentes professionnellement que les hommes. Elles ont les deux la responsabilité de co-gérer la terre dans ce sens-là. Maintenant, la sagesse du travail est une autre question. Ça, on le verra au fur et à mesure qu'on avance. On voit aussi qu'ils ont les deux la même relation avec Dieu. Les deux ont été créés dans l'image de Dieu. Les deux ont une relation personnelle avec Dieu. Et les deux ont une relation similaire avec la nature. Donc, il y a égalité à ce niveau-là. On retrouve ça dans le Nouveau Testament, dans Galates 3, 28, un autre texte clé qu'on va analyser dans les semaines à venir. Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors certains veulent dire, ben voilà, il n'y a plus de différence entre homme et femme. Au niveau spirituel, c'est vrai. En Jésus-Christ, c'est vrai. Le contexte, c'est « car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Dans le salut, au niveau de notre salut en Christ, il y a absolue égalité. Ça, c'est vrai. Mais, dans le chapitre 2 de la Genèse, nous apprenons que même si l'homme et la femme, ou malgré le fait que l'homme et la femme soient créés totalement égaux, ils ont une différence de rôle. Alors écoutez très bien ce que je vais dire. Ils ont des rôles différents. Dans Genèse 2, 18, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors c'est Dieu qui parle ici, d'accord ? Il voit l'homme, il a créé tous les animaux, et il voit que ça colle pas, les animaux, l'homme, qu'il a besoin d'une femme. Et on apprend qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme a été créé par Dieu, le mâle a été créé par Dieu comme un être social. D'accord ? Et juste cela implique une dépendance sur la femme. Il avait besoin d'une femme, c'est ce que Dieu dit. Et ça, on retrouve dans 1 Corinthiens 11:11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Il y a une codépendance, si je peux le dire ainsi. Ils ont chacun besoin de l'autre. Donc, nous apprenons dans Genèse 1 que l'homme et la femme sont créés égaux, mais en même temps qu'ils ont été créés différents. Premièrement, on voit qu'elle a été créée pour être son aide. En regardant ces différences, n'oublions pas qu'ils ont été inventés, décidés, créés par Dieu. C'est Dieu qui a planifié ça, comme ça, d'accord ? Et avant la chute, ce n'est donc pas une conséquence du péché, puisqu'il n'y avait pas encore de péché. Ce n'est pas non plus quelque chose de négatif ou de dégradant. L'homme fut créé d'abord et la femme fut créée après. C'est comme ça que Dieu l'a décidé. Et avec un rôle différent. Alors, elle devait être son aide. Alors, ça veut dire quoi, aide ? Eh bien, aide veut dire aider. D'accord ? Être un support, littéralement. J'ai regardé dans Petit Robert, appuyer en apportant son aide, assister, épauler, protéger, seconder, secourir, soulager, soutenir. Et devait être une aide semblable. Une aide semblable. Donc, une aide spécifiquement destinée pour lui. C'est exactement ce qu'il lui fallait, cette aide. Donc, c'est déjà logique, le rôle de la femme était différent que le rôle de l'homme. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le même mot, parce que certains pourraient dire, ouais, mais c'est un peu, c'est dégradant. Non, c'est pas dégradant parce que c'est le même mot utilisé lorsqu'il est décrit que Dieu aide. Dans Exode 18:4, l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru », c'est le même mot, « m'a aidé et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». C'est le même mot. Donc Dieu aide son peuple dans Deutéronome 33:7, dans le psaume 33:20, des exemples où Dieu aide aussi. Donc on voit que si c'est un mot utilisé pour Dieu, ce n'est pas un mot négatif. Aider n'est pas quelque chose de négatif. Quand vous aidez quelqu'un à faire quelque chose, est-ce que vous dites « Ah là, je suis un être inférieur ». Parce que j'aide. Bien sûr que non. C'est un plaisir de pouvoir aider quelqu'un. C'est notre conception moderne, malheureusement, qui nous influence à voir certains termes beaux comme étant dégradants. C'est rien de dégradant. Dieu nous aide. Chaque fois qu'on prie et répand nos prières, il nous aide. Donc, elle a été créée pour être son aide. On voit aussi qu'elle a été créée d'Adam. Elle a été créée d'Adam, c'est-à-dire que depuis Adam. Verset 19 de Genèse 2, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom de qui lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'y en avait point honte. Il n'en avait point honte. Voyons, on voit la différence dans leur manière d'avoir été créée. Intéressant qu'elle fût créée d'une côte de l'homme. Pourquoi ? Eh bien, cela souligne déjà qu'elle correspond à l'homme, os de ses os, chair de sa chair. Il n'y a donc aucune supériorité ou infériorité de substance. Mais de nouveau, nous voyons que bien qu'il n'y ait aucune différence de nature entre les deux, cela indique qu'il y a quand même une différence de fonction entre les deux. La femme fut créée de l'homme pour être une aide à son mari, et de ce fait, sa fonction dépend de lui. Et on apprend aussi, au verset 23, que c'est l'homme qui donne le nom à la femme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est lui qui décide ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est très intéressant. Le mot homme en hébreu, ish, I-S-H, d'accord ? Le mot pour femme en hébreu, c'est isha, I-S-H-A-H. Ish et isha, alors c'est quoi la différence ? Bien, une femme est une ish. Ah, c'est clair, non ? Ça veut dire que c'est le féminin d'homme. Alors, je sais que je vous apprends rien de nouveau. Mais une femme et un homme sont très différents. L'homme est masculin, la femme est féminine. Et la grande différence, si je puis le dire ainsi, d'une femme et un homme, premièrement, c'est son rôle prescrit par Dieu d'être une aide. Et deuxièmement, c'est sa capacité d'être féminine, virgule, de pouvoir mettre des enfants au monde. Waouh ! Nous, les hommes, on ne peut pas faire ça. Bien qu'il y a pas mal d'hommes aujourd'hui dans le monde qui essayent. On voit vraiment tout aujourd'hui, c'est incroyable. Mais pour l'instant, c'est impossible. Non, c'est un privilège, quoi. Et c'est une femme. Elle a des capacités qu'un homme n'a pas, et vice-versa. Donc, on voit que déjà dans la nature, ils sont différents. Ils ont des rôles différents. Est-ce qu'il y a quelque chose de dégradant d'être maman ? Mais non ! C'est un privilège de pouvoir être maman. Vous savez, moi je dis souvent aux gens, parce qu'il y a certaines femmes qui sont frustrées, elles ne peuvent pas, ou du moins certaines choses qu'elles aimeraient faire en tant qu'hommes, elles ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas hommes, elles sont femmes. Et moi je dis souvent, mais écoutez, moi je ne suis pas un éternel frustré parce que j'ai l'incapacité de mettre des bébés au monde. Moi je ne suis pas frustré par rapport à ça. Moi j'accepte mon lot dans la vie que Dieu m'a créé homme et pas femme. Tout simplement pour dire qu'il y a vraiment une différence entre homme et alors vous dites, mais est-ce que cet arrangement de Dieu est juste ? Est-ce que c'est juste que Dieu a créé les hommes et les femmes différents ? Vous savez pourquoi on réagit comme ça ? Parce que nous réagissons à ce système hiérarchique, d'accord ? Celui d'être différent, car nous ne pouvons pas comprendre ni même imaginer ce qu'est une hiérarchie sans la moindre teinte de péché qui existait dans le monde parfait du Jardin d'Éden dans Genèse 2. Puisqu'à l'époque, le péché n'existait pas. Ça, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas l'imaginer ce que c'était. D'avoir ces rôles distincts dans un monde parfait. C'était une autorité. Certes, il y avait une autorité. C'était un leader. Le mari menait sa femme, elle aidait son mari. Mais c'était un leadership ou une autorité d'amour, de finesse, de gentillesse, de courtoisie, d'honneur et de bonté. Et pour elle, c'était le rêve d'être menée par un type comme lui. Mais c'est super, quoi, c'est génial. Un homme parfait, rempli d'amour à mon égard, mais qu'est-ce qu'une femme veut de plus que ça ? N'oublions pas que ces différences entre eux étaient bons et voulues par Dieu. Il n'y avait rien de négatif. Ça, c'est très important à le noter. Et nous avons de la peine à le comprendre, parce que nous sommes dans un monde où nous ne connaissons que tyrannie, abus de pouvoir, des relations d'autorité mal tournées et perverties. Nous voyons des conflits et des disputes qui résultent si souvent en divorce. Nous voyons hommes et femmes qui s'abusent l'un et l'autre. Dans le Jardin d'Éden, rien de ces choses n'existait. Puis aussi, je me suis souvent posé la question, si Adam et Ève avaient divorcé, il y aurait eu quoi après ? Il n'y avait même pas une option d'aller vers quelqu'un d'autre. Ils étaient que deux. C'est ridicule de penser à un divorce. Il n'y avait pas Adam et Jules. Et il n'y avait pas Ève et Huguette, je ne sais pas moi. Non, il y avait Adam et Ève. Un divorce, c'était insensé d'avoir un divorce. C'est ridicule. Non, c'était un monde parfait. Ils étaient égaux devant Dieu et ils jouissaient de leur rôle distinct et donné par Dieu. Ni l'un ni l'autre ne doutait de la valeur de l'autre ou de lui ou d'elle-même. Les deux fonctionnaient en harmonie parfaite, où l'homme menait, la femme aidait au plus grand honneur des deux. Ils étaient un en corps, un en chair. La côte ne s'est jamais rebellée contre la tête, et la tête n'a jamais maltraité la côte. Jamais avant la chute, la femme ne ressentait-elle une quelconque infériorité par rapport à son statut vis-à-vis de l'homme. Vous savez, j'essaie de trouver une illustration moderne. Imaginez qu'on était dans le jardin d'Éden, Dieu a créé des poissons, et il a créé des oiseaux, n'est-ce pas, dans le jour de la création. Est-ce que vous croyez que la truite, imaginez que pendant l'instant vous êtes une truite, d'accord? Vous êtes une truite dans l'eau, et là vous regardez à travers cette eau limpide et vous voyez un aigle en train de voler. Est-ce que vous croyez que vous auriez dit, ah ben ça c'est franchement nul quoi, c'est nul. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé une truite? Moi je suis coincé dans l'eau, moi j'aimerais être là-haut en train de voler comme un aigle. Est-ce que vous voyez que l'aigle regardait en bas et disait, mais c'est nul, moi j'ai envie de nager comme une truite, moi je peux pas. Moi, je suis coincé ici dans les airs, mais moi, j'ai envie d'aller, je sais pas, dans les océans, je sais pas, n'importe où, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Dieu a donné des rôles, et dans un monde parfait, on était heureux dans ces rôles. Je vais un petit peu long aujourd'hui, d'accord? Donc, j'aimerais juste finir cette portion. Passons au deuxième point. La dignité de la femme brisée lors de la chute. Lors de la chute. Maintenant, nous sommes dans chapitre 3. Tout change. Dans le chapitre 3 de la Genèse. Le serpent, verset 1, était plus rusé de tous les animaux des champs, et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il ment. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit l'arbre qui était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et y mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Que s'est-il passé? Satan s'infiltre dans le jardin, elle contourne le leadership de son mari. Le serpent s'est acharné sur la femme qui, par dessein, et celle qui devait suivre. Le serpent a fait des belles promesses à cette femme, contredisant de manière flagrante la parole de Dieu. Elle l'a écoutée, elle a mangé du fruit interdit, puis elle a persuadé son mari de faire de même. Cela fut le commencement de l'attaque sur le leadership du mari dans le monde. Ève avait péché en cédant au tentateur, mais aussi du fait qu'elle a agi indépendamment de son mari sans le consulter au préalable. Et lui a péché du fait qu'il a désobéi à Dieu, mais aussi au fait qu'il a succombé à l'usurpation de son rôle par Ève, repoussant ainsi l'exercice de l'autorité qui lui avait été donnée par Dieu. Alors les conséquences sont intéressantes. Premièrement, ils se cachent, donc ils cachent leur nudité, donc ils ont honte, au verset 7. Au verset 8, ils se cachent du Seigneur, ils sont aliénés du Seigneur. Au verset 9, ils ont carrément peur de Dieu maintenant, parce qu'ils ont péché contre lui. C'est intéressant que lorsque Dieu interroge le couple, il interroge l'homme avant la femme, impliquant son leadership. C'est elle peut-être qui a péché en premier, mais Dieu parle à l'homme en premier, voyant qu'il était responsable. Et le serpent, lui, n'a même pas le droit à la parole. Et finalement, lorsque Dieu dit qu'est-ce qui s'est passé, ben, il commence à s'accuser. Ils accusent l'autre, ils ne prennent pas l'accusation eux-mêmes. Et les conséquences, et c'est là où je veux en venir, long terme sont draconiennes. Suivez-moi, c'est très important ce que je vais vous montrer maintenant. Au verset 14, Dieu maudit le serpent. Au verset 15, il maudit la femme. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et l'homme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc il maudit la femme par des souffrances dans ses grossesses. Et l'homme, au verset 16 et 17, est maudit dans la pénibilité de son travail. Et notons aussi que la terre fut maudite dans la production de nourriture plus difficile. J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur le verset 16. C'est très important parce que ça explique le problème que nous voyons aujourd'hui encore dans ce problème de rôle entre homme et femme. Au verset 16, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il y a deux malédictions. Un, les grossesses douloureuses. Ok. Deux, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, que veut dire cette phrase? Alors, certains disent, c'est une phrase super, parce que ça veut dire que Dieu a donné à la femme plus de désirs sexuels pour son mari. Ok, écoutez, si vous voulez croire ça, je ne vois pas là une malédiction. Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, vous trouvez pas? C'est pas une bonne nouvelle, c'est une malédiction, ça peut pas dire ça. C'est impossible que ça dise ça. Non. Non, c'est une malédiction. Il faut comprendre le mot désir. Le mot désir, tes désirs se porteront vers ton mari, veut dire contrôler, contraindre, obliger, forcer. Regardez dans Genèse 4, 7, c'est le même mot utilisé. C'est vis-à-vis de Cain. Et il est dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domines sur lui. C'est exactement le même mot, exactement la même structure. Et ici, le mot est utilisé pour décrire le fait que le péché cherchait à contrôler ou posséder Cain, mais lui dominerait sur le péché. Et l'idée ici, c'est que le péché voulait contrôler ou conquérir et dominer sur Cain. Donc si on maintenant recule à Genèse 2, 16, on apprend que la malédiction sur Ève s'est traduite par un renversement de rôle sur qui devait mener. Voici la paraphrase de ce verset. Femme. C'est la malédiction de Dieu, paraphrasée par moi, d'accord? Femme, tes désirs à partir de maintenant et à cause de ton péché vont être de vouloir contrôler ton mari et usurper son rôle. Mais lui réagira et lui dominera sur toi et il refusera ton contrôle et il dominera sur toi et il t'écrasera s'il le faut pour se débarrasser de ton autorité sur lui. La soumission, écoutez bien, volontaire et joyeuse de la femme envers son mari est remplacée dorénavant par un désir de contrôler son mari, virgule, l'homme. Et le leadership d'amour et de joie du mari auprès de sa femme, virgule, les femmes, est remplacé par un désir de les écraser par le biais de la tyrannie, de la domination, de la manipulation ou de l'abus. Et voici, mes amis, le vrai début du mouvement de la libération de la femme. Il n'a pas commencé dans les années 70, mais dans Genèse chapitre 3. Voici la source de tous les problèmes de couple qui peuvent exister, mais aussi de problèmes de renversement de rôle entre les deux. Les mariages à partir de là sont remplis de tensions, de rivalités, de dissensions et de querelles. À partir de ce moment-là dans l'histoire, la femme n'est plus satisfaite de son rôle d'aide envers son mari. Mais maintenant, elle veut s'imposer, elle veut se mettre en avant, elle veut mener, elle veut contrôler, elle veut conduire. Elle cherche souvent à dominer sur son mari, elle le considérant incompétent. Alors les maris maintenant réagissent. En abdiquant d'un côté leur rôle de responsabilité, de leadership dans la famille. Et combien de fois j'ai entendu dans mon ministère de 23 ans des femmes frustrées qui disent « Mais mon mari ne mène pas !» Et je suis frustré par rapport à ça. Oui, parce que certains maris abdiquent leur responsabilité par un absentéisme du foyer, par leur travail, le sport, l'alcool. Et pour certains, c'est le contraire, par un abus de leur femme, que ça soit émotionnel ou carrément physique. Certains vont réagir à cette usurpation de rôle en considérant leur femme rebelle et il va vouloir l'écraser. Regardez dans l'histoire. Les femmes ont souvent, sinon toujours été écrasées par les hommes, dégradées et considérées par beaucoup, pas plus que des esclaves. Elles sont battues en soumission. Oui, depuis ce jour-là, que ce soit dans le couple, dans la société, tout a été chamboulé. Tension, dissension, injustice, frustration, bouleversement de rôle. Le taux de divorce aujourd'hui est vertigineux. En fait, la probabilité du divorce est tellement énorme aujourd'hui que les gens ont décidé de même plus se marier. C'est bien plus simple. Cette malédiction explique les conflits maritaux que l'un veut s'imposer sur l'autre. Alors, c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Sommes-nous voués à une misère conflictuelle perpétuelle à cause de la chute ? Non. Ben non. Ce matin, pendant le culte, on a chanté presque tous les chants sur qui ? Jésus-Christ. Ha ! Écoutez, la solution de Jésus-Christ, on la voit déjà dans Genèse 3:15. Juste avant la malédiction, regardez, Dieu donne la solution. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Sans rentrer dans le détail, c'est une prophétie. Et tout le monde l'appelle le proto-évangile. C'est là où Dieu, déjà à la conception de l'évangile, il y a Satan qui a tenté Adam et Ève, qui va être écrasé par quelqu'un du lignage de la femme. Et c'est qui ce quelqu'un ? C'est Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, le Messie prophétisé à partir des Écritures, qui est venu dans le Nouveau Testament, qui est mort, crucifié, qui est ressuscité des morts. Pourquoi ? Pour vaincre Satan. Lisez Éphésiens 6. C'est le proto-évangile. Et dans Genèse 3:21, l'Éternel Dieu, 3:21, Dieu fit à Adam et Ève, qui avaient honte d'être nus, des habits de peau. Et ils se sont revêtis. Alors, est-ce que c'est important ? Oui. Parce que la peau, ça se trouve où ? Sur des animaux. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour avoir cette peau ? Tuer un animal. Première fois. C'est Dieu qui tue un animal pour leur donner une peau. Et beaucoup voient ici le début de la solution de Dieu. Quelqu'un doit mourir à la place de celui qui a péché. Et là, il y a déjà l'image forte. Dans Genèse 4:4, Abel de son côté, alors donc, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre, verset 3, verset 4, et Abel de son côté en fit une des prémices nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice d'offrande. Dieu commence à accepter les offrandes où il y a eu une mort, un sacrifice. Et catapultant dans Romains 5:19, pour aller très vite, il est dit: Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'était pas ce verset que je voulais, mais celui qui était juste avant, mais il était aussi très très bien. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ bien sûr, beaucoup seront rendus justes. Oui, Adam et Ève nous ont plongés dans le péché. Christ, mes amis, Christ est la solution pour que nous soyons pardonnés et catapulté en quelque sorte dans un jardin d'Éden pré-chute. Et voyez-vous, et ça c'est très important, ça c'est l'arrière-plan d'Éphésiens 5. Car Dieu promet déjà dans l'Ancien Testament que celui qui se confie en lui et dans sa solution pour le péché peut retrouver en quelque sorte le goût d'avant-péché. Et lorsque Paul écrit Éphésiens 5:22, il se focalise sur les domaines où l'homme et la femme ont tendance à pécher à cause de la chute. Il est en train de dire, écoutez, vous étiez comme ceci, la chute vous a plongé dans un problème. Et à cause du péché, la femme ne veut plus se soumettre naturellement à son mari et ne veut plus être son aide. Donc il dit, revenez, revenez en Christ. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 22, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. C'est simplement de rappeler ce que Dieu avait créé au tout début, c'est pas dégradant, c'est de revenir au juste rôle que Dieu a conçu pour elle. Et ensuite, regardez l'homme, au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mais oui, il veut que les maris aiment leur femme et sacrifient pour elle. Ça, c'était le rôle de Dieu pour eux. Alors, je résume et je termine. Qu'est-ce que nous apprenons ? Bien, au niveau mariage, l'homme et la femme retrouvent leur rôle respectif et honorant en Christ. Ils réalisent qu'ils ont été créés identiques dans le Seigneur, mais avec des rôles différents. Et ils acceptent leur rôle et il y a une complémentarité belle et merveilleuse en Christ. Les mariages chrétiens devraient être les meilleurs au monde. Les meilleurs. Ils devraient être les meilleurs. Au niveau Église, ça c'est le thème d'aujourd'hui, vous vous rappelez ? L'Église, le rôle de la femme dans l'Église. Eh bien, à partir de là, les femmes reconnaissent et comprennent de nouveau que leur rôle au niveau Église est différent que celui des hommes. Les hommes comprennent leur rôle et traitent les femmes avec dignité. Et les femmes comprennent leur rôle et en sont satisfaites, épanouies. Elles ne se sentent pas du tout dégradées. Ces femmes arrivent à des textes comme 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Elle répond, Amen. Bon, j'ai envie de comprendre exactement ce que ça veut dire, et ça on y viendra. Mais Amen, c'est pas un problème. Puis les maris alors, les hommes, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Nous on a un rôle à jouer aussi, messieurs. Et on dit, Amen. Amen. Chapitre 3, verset 1, cette phrase est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, un ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Tiens, ça c'est un petit détail intéressant. Dur d'être femme, être ancien et appliquer ce verset. Parce qu'il dit mari d'une seule femme. Alors, si t'es femme, comment tu peux être mari d'une seule femme ? Bon, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment concocter des trucs intéressants, là. Mais globalement, c'est clair. Donc, messieurs, l'évêque, il doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à enseigner, etc. L'homme répond, mais Amen. Écoutez, nous avons des rôles différents. Et ça ne devrait pas être un problème. J'ai encore beaucoup à dire, mais le temps ne me le permet pas de le dire aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là et on reprend la suite. C'est ça la beauté avec une série. On peut continuer autant qu'on veut, on n'est pas pressé, on va continuer et vraiment, vraiment expliquer ce texte. Donc à partir de la semaine prochaine, on va vraiment le regarder en détail. Mais j'espère que vous comprenez ici la beauté de la parole de Dieu, comment elle explique les choses. Et n'oubliez pas, Dieu a créé. Le péché a gâché et en Christ, il y a toute une nouvelle perspective qui est belle, une perspective qui est honorante et qui donne gloire à Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, nous regarderons plus en détail. La clé, c'est quoi ? C'est Christ. C'est Christ. C'est la solution de Dieu. Vous n'allez jamais pouvoir comprendre quel est votre rôle et comment vous allez pouvoir être complètement épanoui sans connaître Christ. Donc, si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous supplie, ne quittez pas ce lieu sans avoir ouvert votre cœur à Christ. Bien sûr, il n'y a que Dieu qui peut vous l'ouvrir, mais vous devez avoir la foi. Donc on va avoir un chant, je crois, maintenant. Peut-être le groupe de louanges pourrait venir. Et pendant ce chant, c'est votre moment. Un moment de louange, d'un côté, d'amen, de l'autre, mais peut-être de recherche, de prière, où vous déposez votre fardeau devant Dieu. Donc, voilà, on va se lever et on va chanter maintenant ce dernier chant avant de nous quitter.